France Culture.
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était une série de causeries signées René Jeanne et Charles Ford qui présentaient dans l'émission Heure de culture française la collaboration cinématographique franco-belge au cinéma. Bien sûr, les romans de Georges Simenon et ceux d'André Stanislas Steman allaient surgir dans le paysage. Deux créateurs de type. Première diffusion sur France 3 nationale le 13 juin 1958.
Il ne nous reste plus que deux noms à inscrire à ce palmarès. Ceux de deux romanciers belges dont les œuvres ont fourni au cinéma français quelques-uns des meilleurs sujets sur lesquels il est eu à travailler depuis un quart de siècle, Stanislas André Steman et Georges Simenon. Répondant au mois de février dernier à Gabriel Daubarède, qui, pour les nouvelles littéraires, menait une enquête sur le roman policier, Georges Simenon s'excusa, affirmant qu'il ne savait rien du roman policier et qu'il respectait bien trop l'art littéraire pour considérer que le roman policier en puisse faire partie à quelque degré que ce soit. C'est net. Puis, non moins nettement, il concluait. Le roman policier est une industrie et rien de plus. Et comme le journaliste protestait, invoquant des précurseurs illustres, Voltaire et Zadig, Balzac et Vautrin, Victor Hugo et Javert, Edgar Poe et le double assassinat de la rue Morgue, Georges Simenon précisa sa pensée. Edgar Poe ne savait pas alors qu'il faisait du roman policier, pour la bonne raison que le genre n'existait pas. Le roman policier n'est qu'une invention d'éditeur. Il procède purement et simplement du roman populaire. Les Montépin, les deux Courcelles, voilà ses précurseurs. Et il n'y a eu d'authentique création dans le genre qu'avant que celui-ci eût été baptisé policier pour des raisons purement commerciales. Parce que le public des chastes et flétries et des porteuses de pain y avait pris goût et qu'il fallait bien alimenter les collections. Depuis que le policier se fait en série, ce n'est plus que de la fabrication. On ne peut pas prétendre que celui qui s'exprime ainsi ne connaît pas ce dont il parle, mais il n'est pas interdit de penser que c'est là de la modestie. Admettons donc que le roman policier soit une invention d'éditeur, en précisant toutefois que si ceux-ci n'avaient pas eu cette heureuse inspiration, ce serait au cinéma qu'il conviendrait d'en attribuer le mérite, car dès ses débuts, le cinéma a montré, à l'égard du film policier, beaucoup de tendresse. Pour en être convaincu, il suffit de citer les noms, non seulement de Fantômas et de Judek, mais encore de Dick Carter et de Nick Winter, qui déjà ne quittaient pas plus sa pipe que ce brave Maigret. Tous héros de films policiers frappés au coin le meilleur. Mais ce n'est pas de faire l'histoire du film que le policier qu'il s'agit ici, et revenons à Stanislas André Steman et à Georges Simenon. Que les films, à l'origine desquels se trouvent les romans de Steman et de Simenon, soient, sans jamais tomber dans le conventionnel, de remarquables films policiers, respectueux des règles les plus impérieuses du genre, celles en dehors desquelles le public ne s'y reconnaîtrait plus, il ne suffit pas de l'affirmer pour donner une idée du mérite de ces deux hommes. Ce mérite va beaucoup plus loin. Dans l'innombrable défilé de personnages en tout genre qui s'est déroulé sur les écrans depuis un peu plus de 60 ans, combien sont-ils ceux à qui on peut faire l'honneur de les considérer comme des types ? Le Charlot de Chaplin, bien sûr, qui a pris place à côté des plus fameux types d'origine littéraire ou théâtrale ayant atteint à l'universalité. Et puis, en France, le Max de Max Linder, qui peut être regardé comme l'expression ironique du jeune bourgeois français du début du XXe siècle. Et ce serait tout, s'il n'y avait à des degrés divers les deux policiers nés de l'imagination de Stémann, l'inspecteur Wenz, et de celle de Simenon, le commissaire Maigret. Ces deux personnages ne tiennent pourtant pas dans l'esprit des foules qui fréquentent les salles obscures une place égale. Peut-être cela vient-il, d'une part, de ce que les films dans lesquels l'inspecteur Wenz a paru sont moins nombreux que ceux dont le commissaire Maigret est le héros, et d'autre part, de ce que le personnage de Wenz est moins proche de l'âme populaire que celui de Maigret. Avoir avec soi l'âme populaire est pour un personnage, surtout pour un personnage de l'écran, la condition préalable à toute promotion à la dignité de type. Or, qu'il s'agisse du dernier des six, dont Georges Clouzot, alors débutant, avait écrit les dialogues et dont Georges Lacombe fut le réalisateur, ou de l'assassin habite au 21, dont cette fois Clouzot porta seul la responsabilité, l'inspecteur Wenz est un être froid, méthodique, d'une élégance sans prétention mais très surveillée, et à qui l'ironie n'est pas étrangère. Toute qualité qui, pour caractériser la personnalité du grand acteur qu'est Pierre Fresnay, ainsi que celle de Louis Saloux qui incarna lui aussi le personnage dans Les Atouts de Monsieur Wenz, n'exerce pas une séduction irrésistible sur l'âme populaire. Le type n'en existe pas moins, et il ne lui a peut-être manqué que d'avoir sur les écrans une vie plus étoffée, plus prompte à se renouveler en des titres nouveaux et en des aventures rebondissantes. Quels que soient d'ailleurs les mérites des films qui ont été tirés de ces romans de Stémann, c'est surtout pour avoir fourni, avec légitime défense, à Georges-Henri Clouzot la matière de son Quai des Orfèvres, que leur auteur s'est acquis des titres à tenir une place durable dans l'histoire de la collaboration cinématographique franco-belge. Quai des Orfèvres, qui, en dépit de tout le bien que l'on peut et que l'on doit penser du Salaire de la peur, des Diaboliques et surtout du Corbeau, est peut-être le meilleur film de son auteur pour sa vivacité, le pittoresque des tableaux, musical, bureau de la police judiciaire, en un mot pour sa maîtrise. Avoir permis à un tel film de prendre forme n'est pas à la portée du premier venu. L'apport de Georges Simenon à la collaboration cinématographique franco-belge est encore plus important. Georges Simenon n'est-il pas d'ailleurs l'écrivain dans l'œuvre duquel le cinéma est allé le plus souvent chercher son inspiration? Dans le générique de combien de films, en effet, le nom de Georges Simenon a-t-il eu sa place? 100, 150, peut-être plus. Le sait-il lui-même, lui qui prétend ne pas savoir combien de romans il a écrit? Mais qu'importe. La matière étant si riche, dédaignons ce dont Simenon a enrichi le cinéma en dehors de Maigret. Puisqu'aussi bien, pour la très grande majorité des amateurs de cinéma, qui dit Simenon dit Maigret. Et pourtant, il est un certain nombre de films où ne se profile pas l'ombre de la fameuse pipe qui suffirait à assurer la renommée de celui qui en a imaginé les péripéties. Les Inconnus dans la maison, Le Voyageur de la Toussaint, La Marie du Port, Monsieur la Souris, La Vérité sur Bébé d'Onge, La Neige était sale. Mais quelles que soient les qualités de ces films, passons, Maigret nous attend. Et d'abord, comment Maigret est-il venu au monde ? Quel policier Simenon a-t-il pris pour modèle ? Aucun, déclare Simenon. Quand j'ai écrit mes trois premiers Maigret en 1928, je n'avais jamais mis les pieds quai des Orfèvres. Ensuite, je fis la connaissance du directeur de la police judiciaire, Paul Guichard, qui me dit qu'un de ses collaborateurs, le commissaire Guillaume, ressemblait étonnamment à mon Maigret. Je fis alors la connaissance du commissaire Guillaume. et peut-être ai-je ajouté à mon personnage quelques-uns de ses traits. Et puis, quand j'étais gosse, j'avais connu à Liège un ami de mon oncle qui était commissaire de police. Il s'appelait Saint-Hubert. C'est sans doute lui qui m'a fourni les premiers éléments de mon Maigret. Enfin, quand j'écrivais des romans à deux sous, j'avais parmi mes personnages un certain Jarry, dont la seule ambition était de vivre un certain nombre de vies différentes. Boulevardier, pêcheur breton, paysan beauceron. Il y a peut-être de ce Jarry en Maigret qui, le temps que dure chacune de ses enquêtes, vit un personnage différent. Gustave Flaubert disait « Madame Bovary, c'est moi ». Georges Simenon ne dit pas « Maigret, c'est moi ». C'est que sous les apparences d'une simplicité un peu rude, enrobée de mollesse physique, qui s'extériorise comme chez beaucoup d'obèses par un goût très prononcé pour la bière bien fraîche, la pêche à la ligne et la tranquillité au foyer conjugal, Maigret est un type assez complexe, et ce qui le prouve bien, c'est que des hommes aussi différents l'un de l'autre que Pierre Renoir, Abel Tarride, Harry Bore, Fernand Ledoux, Albert Préjean, Charles Lauton et aujourd'hui Jean Gabin aient pu l'incarner tour à tour sans que le comportement professionnel du personnage ni sa vraisemblance psychologique aient à en souffrir. Lequel de ces neuf Maigrets a les préférences de l'écrivain ? Celui-ci ne l'a jamais dit, et comme on le comprend. La série n'est d'ailleurs pas finie. Il y aura d'autres Maigrets, beaucoup d'autres sans doute. Car de même qu'Alexandre Dumas recevait de ses lecteurs des lettres le suppliant de ne pas faire mourir Porthos, Georges Simenon est régulièrement prié par ses lecteurs de ne pas les priver des joies que leur réserve Maigret. Et avec une fidélité touchante, il revient à son bon gros buveur de bière, fumeur de pipe, qui a y bien regardé, et peut-être au moins aussi belge que français. Et c'est généralement au mois de décembre que le Maigret tant attendu fait son apparition aux étalages des libraires. Décembre, explique Simenon, le mois des cadeaux, des étrennes. Et puis c'est aussi l'époque de l'année où on se laisse le plus aller à faire du sentiment. Je me suis attaché à mon commissaire, je lui dois tant. Que Georges Simenon ait une dette envers Maigret, c'est indiscutable. Mais à cette heure où son nom figure au générique de deux films projetés sur les écrans parisiens, « Le passager clandestin » et « Maigret tend un piège », que dire de la dette contractée envers Georges Simenon par le cinéma, et en particulier par le cinéma français pour qui, comme Jacques Feder le fut en son temps, il est l'incarnation même de la collaboration poursuivie depuis un demi-siècle entre la France et la Belgique dans le domaine cinématographique.
C'était Heure de culture française, la collaboration cinématographique franco-belge, deux créateurs de type Stanislas André Steman et Georges Simenon, par René Jeanne. Première diffusion sur France 3 Nationale le 13 juin 1958. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.